OK, on va continuer notre série sur le survol des 66 livres de la Bible. Ce soir, on va voir le livre de 2 Chroniques dans la deuxième partie. On avait vu la semaine dernière la première partie. Aujourd'hui, on va étudier quelques considérations sur le temple, parce qu'on avait vu que dans 2 Chroniques, le thème, un des thèmes majeurs, c'est la place centrale que le temple occupait pour les Juifs à l'époque. Et on va regarder aussi quelques leçons morales qu'il y a dans le livre de 2 Chroniques et une étude très sommaire de son contenu. Alors, j'ai à la page 10, ceux qui l'ont, les notes, là, je vous ai mis le contenu du livre, pas le contenu, mais je veux dire la page couverture du livre de Garrett Crossley, Survol de l'Ancien Testament. C'est en 3 tomes. C'est vraiment extrêmement bien fait pour une étude sommaire de chacun des livres de l'Ancien Testament. Très bien fait. Moi, je vous le recommande très fortement. Oui, il est commandé, là, il s'en vient, il est en chemin. OK, on peut juste passer quelques remarques sur le temple, les différents. Alors, on sait que dans le désert, il y avait. C'était le tabernacle, la tente qui était vraiment une tente que le Seigneur avait donné le modèle à Moïse pour la construire. Mais après, il y a eu le premier temple, celui qui est vraiment en pierre, là, qui était à Jérusalem, qui n'était pas dans le désert, était à Jérusalem. L'autre, c'était le tabernacle qui se défaisait, qui suivait la marche dans le désert avec le peuple. Donc, le premier temple, c'est le temple de Salomon, qui était la période qui va de 950 à 586 avant Jésus-Christ. Parce qu'en 586 avant Jésus-Christ, c'est là que le peuple d'Israël a été envoyé en exil à Babylone. Donc le peuple, le temple, le premier temple avait été détruit. On voit la chronologie, il y a le deuxième temple. Le deuxième temple, il y en a qui disent 3 temples, et dans le fond, c'est pas 3. On peut dire plutôt 2 temples en 2 phases, mais on pourrait éventuellement dire trois temples. La première phase, c'est le temple de Zorobabel, qui a été construit lors du retour des Juifs de la captivité en 515 avant Jésus-Christ. Et la phase 2, qu'on pourrait dire le troisième temple, c'est le fameux temple d'Hérode, qui a été construit de l'an 20 avant Jésus-Christ. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais, au moment que j'avais préparé cette leçon-là, je vous avais mis des illustrations. À la page 3, vous avez une illustration du tabernacle. À la page 4, vous avez l'illustration du temple de Salomon. Et à la page 4, vous avez aussi le temple de Zorobabel. Et à la page 5, vous avez le fameux temple d'Hérode le Grand, qui était là lors, quand Jésus est venu, c'était ce temple-là qui était à Jérusalem. Alors, le temple était situé à Jérusalem. Il était vraiment le centre de la vie religieuse du peuple juif. Alors, c'était dans ce sanctuaire qui était dédié à l'adoration du vrai Dieu. Les sacrificateurs, à cet endroit-là, offraient des sacrifices à Dieu pour expier les péchés de la nation d'Israël. À travers les services du temple, le peuple juif s'engageait à suivre les lois et les enseignements de leur Créateur. Alors, avant que le temple soit construit, le tabernacle était utilisé par le peuple hébreu comme la place d'adoration. Alors, durant une longue période de leur histoire, le tabernacle se déplaçait avec eux durant leur séjour au désert. Mais après qu'ils se furent installés dans la terre promise, Dieu leur commanda, à travers le roi David, qu'un temple fût construit. Cette structure fut érigée par le roi Salomon à Jérusalem. 3 temples furent construits à Jérusalem durant une période de 1000 ans d'histoire d'Israël. Les trois furent construits sur le même site, le mont Morija, dans la partie orientale de la Sainte Cité. Très intéressant, le mont Morija, parce que quand on se met à regarder l'Ancien Testament, l'endroit où Abraham avait sacrifié son fils, Et quand on regarde l'endroit aussi où que David avait fait compter le peuple, l'ange qui a voulu détruire, c'était tous ces endroits-là, c'est tout au même endroit. Quand on prend conscience de ça, il y a comme un enseignement théologique que le Seigneur voulait qu'on comprenne. Alors, le mont Morijon. Le premier temple a été construit par le roi Salomon, approximativement en 960 avant Jésus-Christ. Sa base ou sa fondation mesurait approximativement 10 pieds de hauteur. Imaginez-vous une base 10 pieds de hauteur, c'était quelque chose. 10 marches amenaient vers le temple lui-même. Des milliers d'ouvriers et d'habiles artisans furent impliqués dans sa construction. Cet imposant édifice fut détruit par les Babyloniens lorsqu'ils capturèrent Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Donc, elle a eu quand même une durée de vie assez longue, mais à un moment donné, quand les Babyloniens sont arrivés, ils l'ont complètement rasé à terre. Imaginez-vous des structures de cette ampleur-là, pour mettre ça à terre à cette époque-là, il fallait que tu sois enragé pour que tu veuilles vraiment la détruire. Alors, Cyrus, le roi de Perse, a autorisé sa reconstruction, qui est le deuxième temple, sur le même site. Le peuple juif fut autorisé à retourner à Jérusalem pour ce travail. On a la description de ça dans Esdras, chapitre 1. Alors, cette structure-là, connue sous le nom de Temple de Zorobabel, fut complétée en 515 avant Jésus-Christ. Les prophètes Agée et Zacharie poussèrent les Juifs à le faire. On a ça dans Esdras, chapitre 6, versets 13 à 15. Plusieurs siècles après, Hérode le Grand, alors souverain romain de la Palestine, ordonna la construction du troisième temple, ou ce qu'on pourrait appeler le deuxième temple, phase 2. C'était le temple de Jérusalem à l'époque de Jésus. Ce temple fut détruit par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. Jésus a montré son appréciation du temple de plusieurs façons. Il en parla comme de la maison de mon Père, en Jean 2, verset 16. Son zèle pour elle l'amena à purifier le temple en chassant les vendeurs du temple. On a dans Marc 11, verset 15 à 17. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Même si le Seigneur Jésus-Christ manifestait un grand respect pour le temple, il enseigna aussi qu'il était lui-même plus grand que le temple. Il dit dans Matthieu 12, verset 6, en parlant de lui-même, « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » C'est lui qui était le temple du Saint-Esprit. Nous sommes, nous, maintenant, vu qu'on est en lui, on est le temple, le nouveau temple. Matthieu 27, verset 50 à 52. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Très intéressant cette question-là du... C'est à la mort de Jésus, le voile du temple qui était le temple qui avait Jérusalem à ce moment-là. C'était apparemment un rideau de plus que. Il s'est déchiré de haut en bas. Ça indiquait que le chemin qui passait de. Quand on regarde le tabernacle, il y avait le Saint, puis il y avait le Saint des Saints. Et le voile séparait le Saint du Saint des Saints. Et quand Jésus est mort, Le voile qui séparait le Saint du Saint des Saints s'est déchiré de haut en bas, très significatif. Autrement dit, il ouvrait la voie à l'adoration au Père directement, sans que le... Alors, le fait que le voile du temple fut déchiré de haut en bas symbolisait que dorénavant, chaque croyant avait acquis un accès permanent à Dieu à cause de sa mort sacrificielle de Jésus. Parce qu'avant, le seul qui pouvait passer du Saint au Saint des Saints, c'était le souverain sacrificateur, et c'était uniquement une fois l'an, et personne ne pouvait faire ça. Là. Et là, la mort du Seigneur nous montre que la voie était ouverte pour tous les croyants. Très intéressant ça. Alors, la page 4, vous avez des dessins que j'avais trouvés sur Internet montrant le temple de Salomon, le temple de Zorobabel et aussi le temple d'Hérode le Grand. Très intéressant, je vais vous lire un petit peu ce que Wikipédia dit sur le temple d'Hérode le Grand qui était là au moment de la vie de Jésus à Jérusalem. Hérode Ier le Grand procède à de gigantesques travaux d'aménagement, bâtissant à la romaine une immense esplanade. La colline d'origine est ceinturée d'un énorme mur de soutènement. La surface intérieure entièrement nivelée, puis comblée avec du remblai. La construction commence en l'an 19 avant Jésus-Christ. Et elle prend 7 ans à se construire. Et il y a 100 000 hommes qui ont travaillé pour construire ce temple-là. Mais les travaux n'ont pas été terminés avant l'an 63. Donc, elle a commencé en l'an 19 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, et elle a terminé en 63 après Jésus-Christ. Et en quelle année elle a été détruite? En l'an 70. Donc, le temple d'Hérode a duré 7 ans, parce que le temple a été détruit après ça. Alors, le temple a été détruit par les armées romaines. Le projet de construction d'un temple dédié au dieu romain Jupiter Capitolin sur le site de l'ancien temple d'Hérode pourrait être la cause de la révolte menée en 132-135 par Bar Kokheba. À la suite de l'écrasement de cette révolte, l'empereur Hadrien ordonne la destruction de la totalité de Jérusalem. Celle-ci est rasée et le gouverneur romain passe symboliquement une charrue sur son espace. Hadrien fait bâtir une ville grecque sur ses ruines d'une dimension plus petite que l'ancienne cité de Jérusalem et il la nomme Colonia Elia Capitolina. Il fait construire des temples païens sur les lieux du pèlerinage. Les Juifs sont alors interdits de citer dans la ville et dans ses environs, sous peine de mort, jusqu'à l'empereur Antonin le Pieux. Au IVe siècle, la mère de Constantin, Hélène, visite Jérusalem et identifie les lieux saints chrétiens où des églises sont édifiées, souvent sur la base de temples païens qui sont ainsi détruits. En 638, Jérusalem est conquise par des armées venues d'Arabie. Vos vies seront épargnées, vos biens protégés, vos églises respectées, aussi longtemps que vous paierez le tribut, dit le calife Omar. Il n'y avait sur la place que le mur des lamentations, qui est respecté lors de la construction du dôme du rocher, puis de la mosquée Al-Aqsa, dirigé sur les ruines du temple juif. Vous avez un plan, à la page 6, vous avez un plan de la ville de Jérusalem où on voit les suites historiques de tout ça. Alors, il y a eu une période où Jérusalem était dominée par les Arabes et c'est pour ça qu'il y a le dôme qui est là aujourd'hui. Alors, c'est toute une histoire. Jérusalem a une histoire extrêmement riche. Alors, on est rendu à la page 7 pour les leçons morales. Alors, à l'intérieur du livre, il y a plusieurs leçons morales dans le livre de 2 Chroniques. Il y a d'abord celle de la recherche de Dieu. Ça dit au chapitre 7 de 2 Chroniques, versets 14 et 15, c'est des versets que j'ai entendus tellement souvent lorsque des gens prêchent sur les réveils. C'est des versets qui sont utilisés continuellement. Alors, voici ce que le verset dit. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se tourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alors, le livre fournit des exemples frappants de gens qui eurent à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme on peut le voir, par exemple, au chapitre 11, verset 16. Alors, après le schisme du royaume, on assiste à une migration de Lévites du royaume du Nord qui regroupait les 10 tribus. Ces gens pieux restent fidèles au Dieu d'Israël et s'installent à grand prix dans leur royaume du Sud, constitué des 2 tribus. Ils consacrent leur vie au culte et au service de Dieu, et ils font preuve de loyauté au service et au roi, bien que Roboam soit têtu et insensé. Le deuxième exemple de personnes qui recherchent Dieu intervient dans le contexte de la guerre entre Juda et les 10 tribus du Nord. Dieu répond aux supplications du peuple, même si Abija est décrit comme se livrant à tous les péchés que son père Roboam avait commis avant lui, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Quelques années plus tard, Asa invoqua l'Éternel son Dieu, qui met en déroute la nombreuse armée éthiopienne prête à envahir le pays. Son fils Josaphat lui succède sur le trône et jouit de la bénédiction de Dieu sur son règne parce qu'il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements. On voit la leçon morale, c'est vraiment quand on cherche Dieu, on le trouve. C'est aussi simple que ça. Plus tard, le roi Ozias s'appliqua à rechercher Dieu et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Le roi Jotham devint puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Son petit-fils, Ézéchias, fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Quand le monarque ou le roi, ou le peuple recherche Dieu en l'adorant et en le priant, celui-ci répond toujours. Le message spirituel de 2 Chroniques est celui de la souveraineté de Dieu et de la puissance de la prière. Souvent, on va lire, c'est moi ce que j'ai remarqué dans mes lectures de ces livres-là, 1 Chronique, 2 Chroniques, on passe rapidement. Et on ne retire pas le matériel spirituel qu'il y a à l'intérieur de ça. Je pense que si on retient seulement, si on retiendrait seulement celle-là, là, que quand on s'humilie, on prie Dieu, il répond dans sa souveraineté et il fait prospérer ceux qui font, qui cherchent sa face, autrement dit. Très important. La deuxième leçon morale importante du livre de 2 Chroniques, c'est celui de la repentance. Moi, ça contient un passage concernant Manassé. Manassé était un des rois les plus pourris qu'Israël n'a pas eu. Puis le Seigneur, même après tous les péchés terribles qu'il a fait, Dieu a eu pitié de lui. Alors, la repentance, c'est vraiment une leçon de ce livre-là. Manassé a 12 ans lorsqu'il succède à son père Ézéchias, un fidèle roi qui est fidèle à Dieu. Mais il ne partage pas sa foi. Il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et suit les pratiques des nations païennes. Il rebâtit les lieux de culte païen que son père avait détruit. Il élève des autels aux Baals, fabrique des images taillées en bois, adore les divinités assyriennes. Il va même jusqu'à construire 2 autels aux dieux des Assyriens dans le temple de l'Éternel. Il fait passer par le feu certains de ses fils en offrande au dieu Moloch dans la vallée des fils de Hinnon, connue à l'époque de Jésus sous le nom de Géhenne. Akaz, le grand-père impie de Manassé, avait introduit cette coutume abjecte en Israël. Manassé exerce une influence dévastatrice sur la nation et entraîne ses habitants à un niveau moral et spirituel très bas. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Cette désobéissance et ce refus d'écouter ont des conséquences. L'Éternel châtie Manassé en le livrant aux mains des Assyriens. Alors, un changement remarquable se produit dans l'esprit et le cœur du roi. On a cette description-là dans le chapitre 33, les versets 12 et 13. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Moi, c'est un passage qui me touche jusqu'au plus profond du cœur, parce que c'est un pourri à l'os, il ne peut pas être plus pourri que Manassé. Et l'Éternel permet qu'il se repente et Dieu lui accorde la grâce. C'est quand on lit ça et qu'on porte attention vraiment, il était pourri à peu près. Il faisait brûler ses enfants à Moloch. Hey, puis il a tout entraîné la nation d'Israël dans le mal. Et après qu'il s'est humilié, ça c'était Dieu qui lui donnait la repentance. Dieu a pitié de lui et il le libère, il le ramène à Jérusalem. Et après, Manassé, il a mené une vie, il a fait un ménage. Quel bel exemple de grâce de Dieu. On ne peut pas mettre en doute la repentance de Manassé et sa conversion à Dieu. De retour à Jérusalem, le roi fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme ça dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, « La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut » dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Produisez donc du fruit digne de la repentance, alors comme on peut le lire dans Matthieu, chapitre 3, verset 8. Et l'autre leçon morale, c'est définitivement celle des généalogies. Alors, dans le dessein de Dieu, la conservation des archives généalogiques était très importante en vue de la préparation de la venue du Messie. Les Israélites pieux comptaient sur la réalisation de la promesse faite à David et attendaient celui qui doit venir, comme on le lit dans Matthieu 11, 3. Les généalogies ont aussi pour raison d'être de s'assurer que certaines responsabilités continuent d'être exercées au sein des tribus à qui elles avaient été confiées à l'origine, notamment le sacerdoce à la tribu de Lévi et le gouvernement à celle de Juda. Les Juifs qui craignaient Dieu tenaient absolument à connaître leurs ancêtres. Ils tenaient aussi à ce que leur nom soit inscrit, car faire partie d'Israël, c'était faire partie du peuple de Dieu vivant et vrai. Ce thème continue de revêtir de l'importance dans l'Église du Nouveau Testament. Alors, les prophètes font état d'un livre dans lequel Dieu consigne le nom de ceux qui lui appartiennent. Daniel 12, 1. En ce temps se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Malachie, chapitre 3, verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alors, l'apôtre parle de ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Philippiens, chapitre 4, verset 3. L'Apocalypse se réfère plusieurs fois à des noms qui figurent dans le livre de vie. Cela indique clairement que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qui seront avec lui pour la vie éternelle. Le troisième point, c'était le contenu du livre. Je vous ai donné le titre où vous pourriez vous procurer le survol de l'Ancien Testament. Tous les livres de l'Ancien Testament sont décrits d'une façon sommaire. Moi, je vous le recommande encore une fois. C'est un livre qui est écrit par un pasteur réformé baptiste anglais. Il a fait un travail extraordinaire de présentation de chacun des livres avec des dessins, toutes sortes de choses. C'est vraiment très bien fait. Alors, on va terminer là-dessus et on va pouvoir, la semaine prochaine, entreprendre l'étude d'un nouveau livre. Amen.
Amen.